Il est 18h.
Radio Kapi.
Oh Kapi. Le journal Jocelyne Sao Pondé. Manifestation des jeunes, c'est jeudi après les dernières attaques des ADF à Beni. Toutes les activités ont été paralysées. Le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri scellé hier par la police, une mesure qualifiée d'antidémocratique par les députés provinciaux. Ces derniers ont destitué hier le gouverneur Bamanissa. Steve Niembo, chef de mission de contrôle de la Banque mondiale pour les routes nationales 4 et 6, est notre invité. Avec lui, nous parlerons des travaux de réhabilitation de ces infrastructures. Bonsoir à tous. Paralysie des activités, c'est jeudi dans la ville de Beni. Des jeunes sont descendus dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol contre les tueries des civils par les ADF. Le président des plateformes des mototaxis, lui, appelle les motards au calme. C'est Kombi Katondolo, nous en dit plus.
Depuis tôt ce matin, les jeunes du groupe de pression de la Véranda Mutsanga ont barricadé les grandes artères de la ville de Beni en brûlant des pneus à des endroits chauds de la ville. Du fait de cette situation, boutiques, magasins, stations d'essence et même les écoles n'ont pas fonctionné. Selon Kizitobin Angi, président de la société civile Noyau de Beni, cette ville morte est spontanée et est suivie par certains mototaximens et quelques opérateurs économiques pour dénoncer le massacre à répétition des civils par les ADF et exiger des phares d'essai de la police et de la MONUSCO, plus de protection des populations civiles dans cette région. De son côté, M. Aaron Ambereki, président de la plateforme des mototaximens en ville et territoire de Beni, appelle les motards au calme et avoir confiance aux phares d'essai. Signalons enfin que la police nationale congolaise est intervenue pour dégager les voies et encadrer certaines manifestations. Pour l'instant, aucun dégât matériel majeur n'a été signalé. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Kapi.
Et face à l'insécurité persistante à Beni, docteur Denis Mukwege appelle à l'envoi des troupes d'élite dans le cadre d'une opération de type Artemis sous les chapitres 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger la population civile contre les tueries à Beni. Dans un communiqué publié hier, le prix Nobel de la paix 2018 dit que l'indifférence doit s'arrêter et qu'il faut des actions concrètes pour arrêter ce qu'il qualifie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui se commettent dans cette région. Marcel Papimoukeba pour les détails.
Le docteur Denis Mukwege rappelle que depuis 5 ans, la population est terrorisée par des actes de cruauté qui dépassent l'attendement dans la région de Beni. Pour lui, si l'armée congolaise et la MONUSCO n'ont pas pu résoudre la situation à Beni en 5 ans, il ne faut pas continuer à observer l'insupportable sans réagir. Il parle notamment d'actes de terrorisme commis sur des civils, des femmes tuées, exposées ni en public, des enfants massacrés, des enlèvements, des centres de santé détruits et des églises incendiées. Selon le prix Nobel de la paix 2018, face à cette situation, on ne peut plus présenter les condoléances à la population de Beni martyrisée sans réagir, mais il faut arrêter ces crimes odieux et traduire les auteurs en justice. Ainsi, le docteur Denis Mukwege appelle l'Union européenne et à la France en particulier à considérer l'envoi des troupes d'élite dans le cadre d'une opération de type Artemis sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité de l'ONU pour protéger la population civile de Beni. Une opération militaire limité dans l'état et dans l'espace pourrait en effet être très efficace, dit-il. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Direction province du Haut-Katanga, où le gouverneur de province s'est dit indigné du comportement de deux policiers filmés en train de violenter un automobiliste. Les faits se sont déroulés le vendredi dernier à Lubumbashi. Hier mercredi, le ministre provincial de l'Intérieur a, sur recommandation du gouverneur, transmis le dossier à l'auditorat militaire pour que justice soit faite. Retour sur les faits avec Jean Gandou.
Tout est parti d'une vidéo postée sur le net dans laquelle on aperçoit deux hommes en tenue de la police tirer un conducteur de sa voiture, le rouer des coups, avant de le jeter dans leur véhicule portant mention de la police. Cette scène s'est passée à l'angle des avenues Square Arthur Forest et Kasavubu dans la commune de Lubumbashi. Elle était visiblement filmée au moyen d'un téléphone portable par des gens qui étaient dans un restaurant d'à côté. Toutes les interventions des passants n'ont pas ramené à la raison les éléments de la police qui accusaient la victime d'avoir cogné leur véhicule au centre-ville. Saisi de fait, le gouverneur de province a transmis les dossiers à son ministre de l'Intérieur. C'est à partir de ces images que les deux policiers et l'homme qui a été violenté ont été retrouvés. La victime indique qu'elle a remarqué que le véhicule de la police le pourchassait sans raison. C'est pour cela qu'elle a tout fait pour stationner le véhicule à un endroit plus fréquenté pour s'assurer de la sécurité. Au sujet des actes de violence dont elle a été victime, les policiers ont indiqué que c'est parce que cet homme les a fait courir dans tous les sens. Après avoir entendu toutes les parties, le ministre provincial de l'Intérieur s'est décidé de transmettre le dossier à l'auditorat militaire pour que justice soit faite selon la recommandation de l'autorité provinciale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Je le disais en titre, en Ituri, le bureau de l'Assemblée provinciale est fermé depuis hier soir par la police. Aucun accès n'est autorisé à ces installations jusqu'à nouvel ordre. Selon des sources sécuritaires sur place, l'ordre serait venu de la hiérarchie. Des députés provinciaux qualifient cet acte d'antidémocratique et assurent qu'il ne changera rien au résultat du vote de la motion de défiance contre le gouverneur Jean Bamani Sassaïdi. Martial Kizabiamongo.
La fermeture du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri est intervenue hier soir vers 17h locales, soit quelques heures après les votes de la motion contre le gouverneur Jean Bamanissa. Le commissaire provincial de la PNC à l'Ituri, le général Harry Kapent, a d'abord ordonné le relèvement de tous les policiers à poste à l'Assemblée provinciale pour les remplacer par d'autres unités. Ensuite, le portail de l'entrée principale du bâtiment a été cadenassé. Depuis lors, ni les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ni les députés provinciaux n'ont accès à ces installations. Ces derniers crient aux violations des lois du pays. L'un d'eux, le député Masumbuko Adaba, initiateur de la motion contre le gouverneur Bamanissa.
Nous avons condamné cet aspect des choses à toute dernière énergie. Nous avons regretté amèrement comment le conseil provincial peut continuer à exécuter des ordres mal donnés par le gouverneur.
Selon des sources sécuritaires qui ont recueilli l'anonymat, l'ordre de fermeture du bureau de l'Assemblée provinciale s'est revenu de Kinshasa. Ce matin, les gouverneurs Bamanissa, les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale se sont envolés pour Kinshasa à bord de deux vols réguliers mais séparément. C'est pour répondre à une convocation de leur hiérarchie. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Rendons-nous à Matadi pour parler du phénomène cotation des cahiers. On en parle dans plusieurs écoles publiques de la place. Une pratique qui consiste à exiger de l'argent aux élèves avant toute correction d'exercice donnée par les enseignants. Elle est bien évidemment dénoncée par les élèves car selon eux, la pratique met en mal leur apprentissage. Nana Plurich-Mambou nous raconte.
Cette pratique instaurée par plusieurs enseignants des établissements scolaires publics de Matadi consiste en ce qu'un enseignant, avant de corriger un devoir, une interrogation ou un examen d'un élève, doit percevoir de lui une somme de 1000 francs congolais. Pas d'argent, pas de cotation. Moi j'ai 15 cours. Dois-je me battre pour me trouver 15 000 francs, moi qui ne travaille pas et ne sais quoi vendre, renseigne une élève de 4e commercial que nous avons rapproché. En cas de refus de l'élève de soumettre son cahier à la cotation, l'enseignant lui donne la note de zéro et lui montre même le fameux cahier de cotes, ce qui est interdit par les règlements. Un parent raconte que son enfant, pour échapper à cette sanction, s'est vu obligé d'utiliser l'argent qu'il devrait payer comme frais scolaires pour remettre au professeur. D'autres élèves ont carrément mis sur pied une ristourne en classe avec l'argent des transports remis par les parents. Certains enseignants nous ont confié que le fait que la gratuité soit effective et que les frais au niveau secondaire soient au rabais met en mal l'air quotidien. Indigné, le directeur provincial de l'éducation Congo Central invite les élèves à dénoncer ceux des professeurs qui se livrent à cette pratique, signalant que la cotation des cahiers est une activité pédagogique reconnue, elle ne peut pas être monnayée par les professeurs. Nana Plirich Mambou, Matadi, Radio Okapi.
Le monde célèbre ce jeudi 21 novembre la journée de la télévision. Cet outil qui est au centre de la vie dans plusieurs ménages, dans des villes modernes, reste tout de même un sujet de dissension et de divergence quant à sa gestion dans des foyers. À Kinshasa, par exemple, la prolifération des chaînes de télévision avec plusieurs programmes allant des divertissements pour les enfants en passant par les séries et autres longs métrages jusqu'aux informations et documentaires anime la vie dans la famille. C'est le constat fait par nos reporters Emma Julie Bekonda et Jacques-Yves Molima.
C'est un lion, sauve-toi, sauve-toi, Pouba.
Que l'histoire devienne légende, ce Paris Saint-Germain du...
Le monde entier célèbre la journée mondiale de l'Okapi sur le...
La première animation dans le foyer, c'est le choix de programme à regarder. Et là, c'est la première dissension qui surgit, explique ce chef de foyer.
Il y a toujours eu divergence. J'ai besoin de l'information. Ils veulent suivre le série et autres. Ça crée toujours des problèmes.
Dans cette guéguerre, c'est la loi de la majorité qui prime. Lâche cet homme d'une cinquantaine d'années.
Je ne sors jamais vainqueur avec eux. Ils ravissent souvent la télécommande. Discret, la télécommande s'évanouit. Et puis tu entends l'un d'eux qui te dit « C'est moi qui contrôle la télécommande aujourd'hui ». Difficile, la guerre est totale.
Par ailleurs, devant l'insistance des enfants, même les mamans accros des séries cèdent.
Je ne fais que la volonté des enfants. Je cède à leur volonté. Ils sont petits. Ils veulent le dessin animé. Je n'ai pas le choix.
Voir même ses papas, lui aussi, cède à la pression.
Le plus souvent, je me prive de tout. Je me rends au lit.
D'autres parents, par contre, ont trouvé une solution palliative.
Madame aime les séries, je concède. Les enfants, les dessins animés, je leur concède aussi. Si ce n'est pas le temps de l'étude, moi, je me contente de mon petit écran à chambre.
Toutefois, une gestion harmonieuse du temps de la télé arrange tout le monde.
Actualité internationale.
Des doctorantes et post-doctorantes issues de 15 pays d'Afrique participent cette semaine au programme pour les femmes et la science lancé par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO à Dakar au Sénégal. C'est la 10e édition de ce programme qui vise à valoriser les recherches et parcours des femmes scientifiques en Afrique. L'an dernier, on comptait 2,4% des scientifiques africains parmi les chercheurs dans le monde, dont à peine 30% étaient des femmes. Elles recevront ce jeudi des bourses de 10 000 à 15 000 euros pour soutenir leurs travaux. Dans un contexte agité sur le continent de l'Équateur au Chili, la Colombie se mobilise à son tour. Le pays devrait être paralysé ce jeudi 21 novembre par une grève nationale à laquelle appellent tous les syndicats ainsi que les forces d'opposition. Dans toutes les grandes villes de Colombie, des manifestations sont prévues contre le gouvernement ce jeudi. Ces derniers sur les dents, les syndicats, les étudiants, les partis d'opposition, les Indiens et même l'Église catholique appuient la grève.
L'invité.
À Kisangani, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Bundouki sur financement de la Banque mondiale ont repris. Ces travaux avaient été suspendus en 2018 par le bailleur de fonds en raison de certains abus constatés sur les terrains. Quelle est la situation actuelle de cette route? Où effectue-t-on ces travaux réellement et par quelle entreprise? Et quelles garanties pour leur poursuite sans entrave? Le chef de mission de contrôle de la Banque mondiale pour la RN4 et RN6, Steve Niembo, s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Bonjour, quelle est la situation actuelle des travaux sur la route Kisangani-Bundouki?
En fait, la route présente actuellement trop de dégradations, parmi autres on cite des grands bourbiers, parce que vous savez, il y a depuis presque une année, l'année 2018, il y avait une suspension des travaux. Donc toutes les entreprises ne travaillent pas et tout était au stop. Et c'est depuis le début de cette année que la banque avait levé la suspension et que les entreprises ont commencé timidement à reprendre avec les travaux. Donc actuellement, là, nous disons que les travaux avancent normalement.
Et pourquoi les travaux avaient été suspendus à l'époque?
Oui, en fait, c'était par rapport aux abus perpétrés toujours dans le même projet, mais à Goma. Et puis ça avait affecté l'ensemble du projet. Même ici, on a été victime comme ça et on avait arrêté les projets partout sur l'étendue du pays. Et c'est après que ceux qui avaient constitué cet habit-là avaient cessé d'exister et la banque avait décidé d'enlever la suspension depuis décembre 2018.
Sur quel tronçon les travaux s'effectuent-ils réellement et par quelle entreprise?
Actuellement, là, les travaux ont repris sur le tronçon Banalia, Kisangani-Banalia, l'entreprise Traminco est à pied d'œuvre. Et sur le tronçon Buta-Bundouki, l'entreprise SZTC est aussi à pied d'œuvre.
À quand la fin des travaux, proprement dit?
Oui, la fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2019.
Et vous nous assurez qu'il n'y aura pas d'entrave pour remettre encore en cause l'exécution de ces travaux?
Bon, certainement oui. En fait, après les projets, le bailleur remet l'ouvrage au pays. C'est maintenant au pays d'assurer la continuité et les entretiens et consorts. Donc ça se passe toujours comme ça, malheureusement, et que chez nous, c'est pas vraiment d'habitude. Mais bon, espérons quand même que cette fois-ci, ça ira.
Est-ce que dans les contrats, il est prévu une clause pour la maintenance de ces ouvrages?
Non. La maintenance dans notre contrat, c'est après les contrats, on remet l'ouvrage à l'État congolais.
C'est à l'État congolais d'en assurer la pérennité.
Oui, c'est effectivement.
Bon, maintenant, aujourd'hui, là, vous êtes avec nos amis des droits de l'homme. C'est curieux, de la route aux droits de l'homme. Quels liens vous établissez entre les deux?
Certainement, ça paraît pareil. C'est quelque part, c'est un peu curieux de voir les routes et puis les droits de l'homme et qu'on sort. Mais par rapport aux habits dont je venais de souligner, qui avait occasionné la suspension des travaux, et parmi les recommandations de la Banque mondiale, il fallait quand même que chaque ouvrier qui travaillera sur chantier ou que chaque entreprise qui aura engagé des travailleurs, soit des ouvriers, consorts, même de main d'œuvre qualifiée, il faudrait d'abord qu'ils passent à la formation. Pour les civils, c'est la formation sur la violence sexuelle basée sur le genre, et pour les militaires, c'est la formation sur les droits de l'homme. Et vous savez bien que, comme la MONUSCO est bien douée à ça, c'est ainsi que le bailleur des fonds avait contacté le Bureau des Nations Unies pour dispenser cette formation-là au personnel militaire qui gère certains chantiers sur notre axe.
Et vous, en tant que superviseur, quelle est votre contribution dans cette formation?
Oui, c'est bien. Bon, la mission de contrôle est là. Son rôle est de veiller à ce que les choses se passent dans de bonnes et due forme. Et puis nous sommes là pour veiller confirmer réellement qu'il y a eu formation, parce qu'on aura fait un rapport qu'on aura envoyé aussi partout, là même à la Banque mondiale. Donc c'est vraiment ça, notre rôle, s'assurer que la formation a bel et bien eu lieu et puis dans des bonnes conditions.
Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de cette formation justement?
Les impressions sont tellement positives et puis donc ça va, le déroulement se passe tellement bon, vous l'avez vu aussi, en tout cas nous sommes satisfaits de ce côté-là. Et c'est pas aussi la première fois, nous voulons aussi souligner, en 2018 on avait aussi organisé la première formation des militaires, ainsi que le début de cette année il y avait aussi une formation, et maintenant c'est la troisième formation. Et
quelles sont vos attentes?
Non, ça va, que le personnel militaire qui seront affectés sur différents chantiers, ils vont quand même faire le boulot par rapport à ceux qui sont en train d'apprendre ici.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ce journal mis en onde par Polydor Basunga touche à sa fin. Il a été supervisé par Billy Van Lutumba et Alain Irung. Merci de l'avoir suivi.